Cours de philosophie critique par le père Philippe à Saint-Jeudard, le 30 janvier 1992.
Si le langage donne un support quantitatif à la connaissance, il semble bien que la connaissance ne soit pas une juxtaposition de concepts, mais plutôt le fruit dans mon attention actuelle au réel et à la représentation qui est en moi. Cependant, comment expliquer l'accumulation de connaissances et de concepts? Il n'y a justement pas d'accumulation. Autrement, on ne pourrait pas l'expliquer. C'est le tas de pierres. Vous savez. Mais je comprends très bien qu'il y a un problème. Peut-on dire que l'aspect d'accumulation quantitative est le fait de la mémorisation sensible de nos expériences et que le concept naît de l'application actuelle de mon intelligence à telle expérience actuelle. La différence radicale entre un savoir mémorisé comme le son pour l'essentiel des études actuelles. Et la connaissance philosophique me paraît manifester cela avec force. La connaissance philosophique apparaît plus comme une qualité de présence au réel à travers le jugement que comme une somme de définition. C'est très juste. Nos connaissances sont toujours liées à une image. Toutes nos connaissances. Dans l'exercice de ma connaissance intellectuelle implique toujours un lien à une image. Je peux décrire simplement en refusant l'abstraction. À ce moment-là, j'ai donc une accumulation de connaissances qui sont retenues par la mémoire, les représentations, les images. Et la vie intellectuelle est entièrement liée à ces images. Des hommes vivent d'images. Et les images chevauchent les unes sur les autres et s'appellent les unes sur les autres, les unes par les autres. Dès qu'il y a connaissance intellectuelle, il y a abstraction, donc dépassement de l'image au niveau de la signification. Et l'aspect qualitatif de la vie intellectuelle est au niveau de la signification. Et c'est très vrai qu'il n'y a pas de pensée philosophique sans une abstraction et sans une séparation à l'égard du domaine des images. Le philosophe seul peut vraiment séparer représentation et signification. Et je crois que c'est le premier acquis de la philosophie, ça. On laisse tomber les représentations pour s'attacher à la signification, avec le danger que ça représente. Il y a toujours un danger, hein. Le danger, c'est que la philosophie devienne une idéologie. C'est un très grand danger. Que le jugement est absorbé par l'appréhension. Ce qui a existé dans la scolastique décadente. D'où l'accumulation. tomber sur la représentation. Parle-moi d'une analogie. C'est le grand danger. La philosophie ne quitte jamais le jugement d'existence. Jamais. Autrement, c'est plus philosophique. Il y a toujours le lien actuel au réel et à l'expérience. Et c'est dans la saisie de l'acte qu'on le voit le mieux. C'est dans la saisie de l'acte, de l'être en acte, que le jugement d'existence est le plus proche. Et d'une certaine manière, vous voyez, on a l'impression, quand on saisit l'être en acte, qu'on a fait tout simplement d'approfondir le jugement d'existence. Dans le jugement d'existence, ceci est l'acte saisi. L'être en acte est saisi. Mais pour le saisir vraiment comme un principe, comme la cause finale, il faut l'induction. Mais je reprends ça parce que ça se tient, tout ça. Alors, comprenons bien que dans le domaine de la connaissance intellectuelle, philosophique, il n'y a jamais d'accumulation. Parce qu'on est dans un domaine de signification et de signification qui touche les principes. Donc, c'est un domaine extraordinairement simple. C'est toute la richesse du principe qui nous est donnée en philosophie. Un principe n'est pas l'accumulation d'une série d'expériences. Si je restais au niveau descriptif, ce serait l'accumulation d'une série d'expériences que j'essaierais d'ordonner pour les mémoriser. Pour mémoriser mes expériences, je les ordonne. Et il y a des petits moyens techniques qui font que l'un accroche l'autre. Il y a un « ti » qui se retrouve dans le « ti » qui se retrouve dans le troisième, il y a un truc comme ça. Et là, on mémorise en ordonnant d'une façon tout à fait matérielle. Ça, c'est au niveau descriptif. Dès que je suis au niveau de la signification, il n'y a plus d'accumulation. Il ne peut plus en avoir. Il y a une pénétration toujours plus profonde dans l'ordre de la connaissance. Et la signification. C'est le principe qui est source, qui est cause, et qui ordonne. Alors évidemment, dès que j'en parle, j'accumule. Mais quand je pense, je n'accumule pas. Mais pour parler, il faut passer par la mémoire. Au point de vue intellectuel, c'est très net, vous voyez. Quand on commence à vieillir, c'est la mémoire qui en prend le plus gros coup. Les représentations. C'est pas l'intelligence. L'intelligence ne vieillit pas. Elle approfondit toujours. Mais comme je dois passer par la mémoire pour parler, il y a des creux. Il y a des mots qui reviennent bleus. La mémoire, mais pas la signification. Je dirais la purification même de la mémoire permet à la signification d'aller plus loin. Donc on progresse du côté pénétration et on diminue du côté extension. On progresse qualitativement et on diminue du côté quantitatif. Ça, c'est très net. Si on est un tout petit peu conscient de ce que c'est que la vie intellectuelle, quand on progresse, quand on veut entrer en philosophie, quand on est novice au niveau philosophique et qu'on commence à entrer, eh bien, on fait aussi ce progrès-là. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas trop d'informations, noviciat. N'allez pas à droite et à gauche. Je me pose toujours la question. au cinéma le soir, comme un peut-il entrer dans la connaissance métaphysique? Je crois que c'est impossible. Il y a une certaine ascèse de l'imagination qui est absolument nécessaire. Et c'est cette ascèse de l'imagination qui permet la purification affective et la purification intellectuelle. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a telle accumulation de représentations. L'imagination n'a jamais été aussi fertile que maintenant. Mais aussi, on est dans un climat de forêt équatoriale. Ça repousse, ça repousse, ça repousse, ça repousse. Indéfiniment. Et on vit au niveau imaginatif. On ne pense plus. Alors, comme on ne pense plus, la foi qui ne s'enracine pas dans l'imaginaire n'a plus d'humus, n'a plus de terrain dans lequel elle peut s'envoyer. L'évangile d'hier. La bonne terre, où est-ce qu'elle est la bonne terre aujourd'hui? Le noviciat, c'est d'essayer de retrouver la bonne terre. Essayer de faire que toutes les ronces s'en vont à la paille de fer, que le terrain pierreux, la plupart du temps, on est obligé de les transporter, et comme on n'arrive pas à le faire, on demande au Père de porter avec nous les grosses pierres, et petit à petit, la bonne terre arrive. Et c'est dans la bonne terre que parole de Dieu peut s'enraciner. C'est une très belle parabole, celle-là. Parce que c'est exactement l'état dans lequel on est, on voit très bien ça. Alors si on pouvait faire le pourcentage au début de l'entrée et à la fin du noviciat, oh, ce serait intéressant ça, pour la lettre aux amis. Ce serait extrêmement... Voir, il est entré avec ce coefficient imaginatif. Au bout de 18 mois de noviciat, le coefficient imaginatif a diminué et la vie intellectuelle a progressé. Il y a eu une pénétration plus profonde. C'est ça l'abstraction formelle. Vous voyez, l'abstraction formelle ne nous fait pas quitter le jugement d'existence. L'abstraction formelle en métaphysique, en philosophie. Donc elle ne fait pas quitter le concret, mais ce n'est plus le concret imaginatif, ce n'est plus le concret quantitatif, individuel, c'est le concret de l'être. L'acte d'être. Vous arrivez à comprendre cela, l'aspect qualitatif de la connaissance. Alors, dès qu'on est au niveau de l'aspect qualitatif de l'intelligence, on comprend très bien que tout s'organise qualitativement. La vie est organique et la vie de l'intelligence est organique. Si on a une intelligence saine, elle implique un aspect organique. Et la philosophie nous aide à préciser cette organisation intellectuelle. Alors que dans le domaine des sciences modernes, on est en face d'une accumulation, une information de plus en plus grande. Et cette information de plus en plus grande fait que, au bout d'un certain temps, on ne peut plus. Vous voyez ce que je vous avais dit, un petit exemple très simple. Dès qu'on doit faire une petite dissertation, dès qu'on doit faire surtout une thèse, on doit regarder tout ce qui a été écrit là-dessus. Parce que si jamais vous avez oublié un livre important sur lequel c'est suffisant pour qu'on vous refuse la thèse. Donc il faut que tout, une information parfaite. Alors là, l'ordinateur est merveilleux. Hein. Vous avez tout ce qui a été écrit là-dessus. Ça va simplifier. Et alors, si vous êtes conscient et honnête, vous devez lire tout ce qui a été écrit dessus. C'est tellement grand que vous étouffez. Situation limite de l'intelligence. L'imaginaire l'information à des tels que... Et vous perdez toute qualité d'intuition. C'est extraordinaire, ça. Mais c'est là, on voit qu'on arrive à des situations limites pour l'intelligence humaine. C'est ce que me disait du reste un professeur de biologie. Il me disait, les connaissances ont tellement augmenté que pour les examens en médecine, au point de vue biologique, il y a une telle accumulation de connaissances que c'est impossible de penser. Alors, on est des bêtes de somme qui passent ces examens. Et comme il y a trop de médecins, on fait une sélection. Et donc on conduit les gens au désespoir. C'est extraordinaire ces choses-là, de voir la bêtise, hein, parce que c'est une bêtise humaine ça. À la place de faire des gens intelligents, on fait des bêtes de somme. Des forts en thème. Des forts en thème, c'est ceux qui accumulent, qui accumulent, qui accumulent. Et cette accumulation est ordonnée d'une façon purement extérieure. Tandis qu'au contraire, celui qui pense, il a un cerveau organisé. Et il n'y a pas d'accumulation. On retient les qualités, les sommets. Et tout ce qui n'est pas sommet, on laisse tomber. Et vous retenez de tout ce que vous lisez uniquement ce qui vient rendre la chose plus qualitative. Le reste, oubliez. C'est extraordinaire, voilà, la sélection que fait l'intelligence au niveau qualitatif. Pour pouvoir respirer, pour pouvoir continuer de penser. Autrement, on ne penserait plus. Là, il y a un problème critique, donc très intéressant, pour montrer comment il n'y a pas d'accumulation au niveau du concept, puisque c'est la signification. Il y a un ordre interne au niveau de la signification. Un ordre qui se fait par les prédicables et un ordre qui se fait par l'analogie. Deux ordres tout à fait différents. Alors, les uns ont beaucoup plus développé l'ordre logique des prédicables et les autres beaucoup plus développé l'ordre métaphysique analogique. Et d'autres développent l'ordre dialectique. Je crois que l'ordre logique est vrai. L'ordre analogique est vrai. L'ordre dialectique est faux. Mais si on réfléchit un peu, on voit tout de suite ça. Et quand vous voyez une table des matières qui normalement vous donne l'ordre qu'on a suivi, vous voyez tout de suite si c'est un ordre déprédicable. Si c'est un ordre analogique, si c'est un ordre dialectique. Vous voyez tout de suite, immédiatement, ça saute aux yeux. Ou si c'est un ordre d'accumulation. Parce qu'il y a encore, depuis qu'historique, c'est un ordre d'accumulation. On le sait. Alors on essaie de ponctuer comme on peut. Continuons. Le problème critique des relations entre l'intelligence, entre l'appréhension et le jugement. Alors, n'oubliez pas que c'est le jugement qui est le premier moment de la réflexion critique. Je ne peux pas rester dans le jugement. Je saisis la nécessité de poser une autre opération. L'appréhension. Qui est l'élément. Alors, quand on se pose la question, est-ce que l'appréhension est première génétiquement ou pas génétiquement, attention, on est dans un ordre critique. Alors, dans un ordre critique, ce n'est pas cela qui commande. L'ordre génétique et l'ordre de nature, c'est au niveau philosophique. En critique, qu'est-ce que vous faites ? Vous essayez de saisir l'élément fondamental. Donc, Vous êtes en face d'un ordre différent, ni génétique, ni de nature. C'est un ordre d'architecture. Foucault. Mais beaucoup plus pur que Foucault. Hein. Parce que Foucault ne vous donne pas ça. Parce que Foucault n'a pas les deux autres ordres avant. Vous voyez ? Il faut tout le temps arriver à avoir cet ordre génétique. Ordre de recherche. Donc ordre génétique. Ordre de perfection. Ou on dira de nature. Donc l'ordre de recherche de l'imparfait vers le parfait. Ordre de perfection. Du parfait. Je regarde l'imparfait. J'ordonne l'imparfait. Et puis, troisième ordre, ordre critique, de réflexion critique. C'est différent. Je cherche l'élément. Vous cherchez le roc sur lequel il faut construire la maison. Cherchez le roc. On cherche l'élément, le fondement. Dans ordre critique, vous voyez. Or, l'appréhension dans l'ordre de la connaissance intellectuelle du point de vue critique, c'est le fondement. Le fondement, c'est sûr. C'est l'aspect de la condition nécessaire pour que l'édifice puisse se faire. Quand vous entrez dans une maison, est-ce que vous entrez d'abord par la cave ? J'ai envie de voir comment ça s'est construit. Je vais aller tout de suite à la cave. Il est drôle ce bonhomme-là. Hein. Mais c'est ce que fait Foucault. À la mode, c'est pour ça que je dis ça. Alors, c'est sûr, on entre à la cave. L'aspect critique. Cherchez tout de suite le fondement. Ça m'intéresse. Bon, si vous êtes spécialiste des fondements, on dira très bien. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder ça à la cave. Voir toutes les choses. Comment ça s'organise, comment ça se chauffe. C'est pas en regardant de l'extérieur, vous allez comprendre. Il faut descendre à la cave. Et voir la machine qui chauffe tout le reste. Alors, est-ce que la machine est première dans l'ordre de recherche ? Est-ce qu'elle est première dans l'ordre de perfection ? Non. Elle est première dans l'ordre critique. Et c'est très curieux. Et c'est un ordre spécial, ça. L'ordre critique, c'est un ordre spécial. C'est un ordre de réflexion critique. L'ordre génétique, je décris. L'ordre de perfection, j'analyse. L'ordre critique d'éléments, je ne construis pas, mais j'essaie de comprendre comment la construction s'est faite. C'est le comment. C'est le comment philosophique. Vous voyez, c'est dans cet ordre-là qu'il faudrait regarder la psychologie. Du côté affectif. Côté affectif, c'est l'ordre du comment, c'est un aspect critique, la psychologie. Hein. C'est un aspect critique, vous critiquez vous-même, une autre espèce d'autocritique sur votre affectivité, pas du tout sur votre connaissance. C'est là les limites. Il faudrait, nous, comprendre que l'affectivité implique la connaissance, et donc compléter la critique intellectuelle d'une critique affective. Et par là, j'assume toute la psychologie. Parce que la psychologie, c'est l'ordre du comment. Pourquoi j'aime le chocolat ? Pourquoi j'aime l'alcool ? Il y a une bouteille d'alcool dans le là, qui est cachée. Je la sens. Et j'attends que tout le monde s'en aille, et puis quand tout le monde est parti, tiens, je regarde bien si quelqu'un, et puis je me mets à vider la bouteille. Comment ça se fait que vous êtes venu à ce niveau-là? Que la bouteille... Bon, il y a toute une étude de ce comment. Et vous cherchez le fondement premier. Mais effectivement, c'est comme ça. C'est votre vie affective. Vous pouvez réfléchir sur la construction de votre vie affective. Vous vous êtes construit affectivement. Alors vous êtes construit à partir de l'alcool. C'est une construction comme une autre. Il y a certaines personnes, vous ne pouvez les comprendre qu'à partir de l'alcool. Ça brûle. D'autres personnes, vous les construisez autrement. L'amour de la vérité. Et ainsi de suite, vous voyez, il faut bien comprendre que la psychologie, c'est le comment affectif. Et ce comment affectif est doublé d'un comment intellectuel. Et le comment intellectuel est plus intelligible que le comment affectif. Et donc une psychologie qui ne voit pas l'aspect critique de la connaissance est une psychologie qui reste toujours dans les ténèbres. Presque aveugle, quelquefois. Puisque la passion aveugle. Alors chercher le comment d'aveugle de la passion sans voir le comment de la vie intellectuelle. Vous voyez, c'est pour ça que la critique, une vraie critique intellectuelle et philosophique, vous permet d'avoir une lucidité beaucoup plus grande sur votre comment affectif. Alors, j'essaie de comprendre comment de ma vie intellectuelle, le fondement. Et je vois que c'est le concept. C'est le concept. Et en dernier lieu, je verrai que c'est le concept d'être. Je ne le vois pas tout de suite. Il y a des étages différents. Hein, avant de découvrir que c'est le concept d'être qui fonde toute ma vie intellectuelle. Et que c'est le fondement de toute ma vie intellectuelle. Je vois d'abord que c'est l'appréhension qui fonde ma vie intellectuelle. Et que l'appréhension a comme fruit le concept. C'est ce que nous avons essayé de faire. Et une fois qu'on a compris que l'appréhension, c'est l'élément de la vie intellectuelle, donc le fondement, toujours présent, j'essaie de comprendre le lien entre ce fondement et ce dont j'ai conscience. Ce dont j'ai conscience, c'est ce qui me relie au réel. Ma vie intellectuelle ne me relie pas, voyez, immédiatement au réel. Si le fondement de ma vie intellectuelle, c'est le concept. Le concept est d'ordre intentionnel. Et l'intentionnel, il est vécu dans l'intelligence. Alors vous voyez, ça explique des tas de choses. Que ma vie intellectuelle peut dérailler. Ça peut me conduire à l'idéalisme. Puisque le fondement de ma vie intellectuelle, c'est le concept. Et que le concept est au niveau de l'intentionnalité. Et que l'intentionnalité, ce qui est vécu dans ma vie intellectuelle n'est pas immédiatement le réel existant en dehors de moi, en dehors de mon intelligence. C'est un réel déjà assimilé par mon intelligence. C'est un réel dans l'ordre de l'intentionnalité. Et le réel dans l'ordre de l'intentionnalité n'est pas le réel tout court. C'est un vécu intellectuel. Ça explique, vous voyez, comment si facilement on est idéaliste. Parce que ce réel premier au point de vue fondamental, au point de vue critique, n'est pas le réel tout. Vous voyez, pour ma vie intellectuelle, l'élément c'est le concept. Le concept implique une forme intentionnelle. Le vécu de ma vie intellectuelle demeure dans une forme intentionnelle. Ce n'est que par le jugement que je peux ouvrir la fenêtre. L'intentionnel provient de la réalité. C'est sûr. Je suis parti du jugement. J'ai découvert l'appréhension. J'ai découvert que l'appréhension me permettait d'assimiler intentionnellement le réel. D'assimiler ce qui est assimilable dans le réel. C'est-à-dire l'acuité. C'est-à-dire les déterminations putatives. C'est-à-dire la forme. J'assimile le réel de cette manière. Une fois que j'ai assimilé, je me demande quel est le lien avec le jugement d'existence. Voyez, je suis descendu très profond dans mon intentionnalité. Maintenant, je veux saisir le lien. Et je vois que ce qui est assimilé, la signification du blanc, la signification de l'animal, la signification du vivant, me met dans un monde qui est mon monde intellectuel et le monde intellectuel de mon voisin aussi. On se rejoint. Et c'était comme ça. Vous savez bien que Freud a essayé de rejoindre des malades à Sainte-Anne. Il a vu tel malade qui a perdu un peu la tête. On perd la tête quand on n'a plus de jugement d'existence. Tant que vous avez le jugement d'existence, vous ne perdez pas la tête. Le discernement est là. Vous avez encore des concepts. Les malades ont des concepts très imaginatifs, très liés, c'est ordinairement des symboles. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Freud? Il a écouté ces malades, plutôt que de les battre. Espèce d'imbécile, tu ne comprends rien du tout. On va te battre, puis on va te lier dans ton lit, et puis on va t'apporter des... Tu ne pourras plus bouger, tu seras ligoté comme... qu'est-ce que ça fait? Ça fait un refoulement qui augmente la maladie. C'était comme ça qu'on soignait. Alors Freud a dit non, il doit y avoir une autre manière. Alors il a noté chambre, temps. Il a dit tel mot. Il a répété tel mot. Et ordinairement, c'était des mots indépendamment du jugement. Dernier contact avec le réel, c'est l'intentionnel. Et c'est la logique. Il y a une logique de fou. Et qui est très cohérente. chante-t-elle autrement. Alors il a noté ça, et alors quand il est revenu le lendemain le voir, lui-même a pris ses mots. Alors ils se sont joints. C'est très astucieux ça, vous voyez. C'est pour ça que les psychanalystes freudiens que j'ai beaucoup connus me disaient, nous sommes des scaphandriers. Nous descendons dans les profondeurs de l'eau. On quitte le jugement d'existence. Ils ne disaient pas ça, mais on quitte le jugement d'existence et on rejoint ce monde d'intentionnalité du vécu. Et pour le rejoindre, il faut employer les mêmes mots. Et comme ça, il entre en contact avec eux. C'est très astucieux, mais c'est très intéressant, voyez, au point de vue critique. Parce que ça montre bien la coupure par rapport au réel et qu'on reste dans un monde idéal. Un monde idéal qui est souvent très pauvre, très très pauvre. Quelques mots qui restent comme ça, qu'on répète, et qui ont une signification très particulière, mais c'est plus rejoint au réel. On reste dans un monde d'intentionnalité. Alors comment rejoindre le jugement d'existence à partir de ces mots? Ben, c'est tout le problème de la psychanalyse. Comment redonner le sens du réel? Et quand on redonne le sens du réel, on retrouve le rivage. Comment ça se fait? Je ne peux pas accumuler tous les mots et dire je vais rejoindre le réel. Non, je suis dans l'intentionnalité. Alors, au plan critique, on se place au plan critique ici, pas au plan psychanalytique. Au plan psychanalytique, c'est un problème artistique. De guérir, tandis que le plan critique est un plan spéculatif, où j'essaie de comprendre. Je suis un homme normal. Si on fait de la critique, je prends l'homme normal que nous sommes. Bon, nous avons qu'un chemin d'existence, et nous voyons que il y a des concepts. Comment se fait le lien entre les deux? Il y a un abîme entre deux. Cet abîme, c'est quoi? Ça a été l'abstraction. J'ai abstrait pour assimiler la quidité des choses et arriver à exprimer blanc, animal, raisonnable, capable de rire, toute une série de mots séparés du réel, complètement séparés du réel. Comment rejoindre? C'est que, justement, le jugement touche dans le jugement d'existence, touche la réalité. C'est la réalité qui m'intéresse dans le jugement. Ce n'est pas les concepts. Donc, il y a, grâce au jugement, un contact direct avec le réel. Mais ce contact direct avec le réel présuppose des appréhensions. Mais ce n'est pas les appréhensions ou le fruit des appréhensions qui sont les concepts, les formes intentionnelles qui me donnent le contact avec le réel. C'est l'intelligence elle-même qui, dans le jugement, me met en contact avec le réel. Et en me contact avec le réel, ceci est. C'est donc l'être qui est saisi dans le jugement d'existence qui me permet de comprendre le passage du fruit de l'appréhension avec le réel. C'est l'être qui fait ça. Donc, c'est important de saisir qu'il y a dans la vie de l'intelligence un contact direct avec le réel. Ce contact direct avec le réel présuppose des appréhensions. Mais ces appréhensions sont le fruit d'une intelligence qui a abstrait. Et donc, ces concepts ne sont plus en contact direct avec le réel. Il faut revenir au jugement pour découvrir ça. Ça, je crois que c'est très important de bien le comprendre. travail qu'on retrouve le sens du réel. Le chemin d'existence perdu spéculativement reste dans l'ordre pratique. Et quand il est perdu dans l'ordre pratique, ça devient très difficile. Quelqu'un qui a été religieux, pieux dans sa vie, ça, j'en ai l'expérience. Eh bien, le dernier contact avec le réel, c'est l'aspect de la prière. J'ai vu ce fait, quelqu'un qui hurlait, attaché, que je connaissais. Je me suis mis au pied de son lit à prier, tout haut, le « Je vous salue Marie » ou le « Notre Père ». Au bout de quelques minutes, il y a eu un silence et le malade s'est mis à prier, à réciter la prière, alors qu'avant il hurlait.